Salut Jessica.
Bonjour.
Alors ce soir, c'est ton vernissage, l'exposition Câlin, à partir de 18h30. Comment ça va? Est-ce que tu te sens bien?
Non. Non, je suis très très stressée, je dors très peu. Mais je suis hyper contente.
T'es arrivée de Lyon mardi?
Oui.
Et ça fait 2 jours qu'avec Alexis, vous travaillez au montage de l'expo.
Ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'ai l'habitude d'être assez lente, pas dans ma peinture, mais quand j'installe ou quand je signe, c'est chouette qu'on ait eu 3 jours pour faire les choses parce que c'est éprouvant.
T'as fait ta cure de coca et de friandises. Tu te nourris à ça, c'est ton carburant?
Oui, absolument. J'ai une canette dans mon
bonbons.
Sac.
Ouais.
Une canette de coca. Et de la barbe à papa.
Non. Mais comment ça, t'as de la barbe à papa?
Dans un pot.
Alors ça, c'est vraiment...
C'est vrai que c'est vraiment mon carburant. Je ne mange pas de pâtisserie ni de viennoiserie. C'est pas trop mon truc. Mais le sucre pur.
Ah oui, d'accord.
Les bonbons, le coca.
C'est ton gasoil.
Je suis un peu stressée le matin quand je me réveille si je sais que j'ai pas de coca dans mon frigo.
Ah oui.
Ouais.
Bon, bah là, c'est bon, t'es équipée, tu vas tenir toute la journée jusqu'au soir.
Oui, oui.
Mais de toute façon, il y en a aussi dans le frigo ici. Hein. On a préparé.
Parfait.
Alors, Jessica, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu aimes faire par-dessus tout. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire plus que n'importe quoi, la contemplation, les voyages, mais peut-être que c'est dessiner tout simplement?
Peindre essentiellement, m'occuper de ma fille, jouer avec elle, lui faire des câlins, et de mon conjoint, avec mon conjoint aussi. Et c'est vrai que l'océan m'apaise énormément. Et je pourrais rester en haut d'une falaise à regarder l'océan pendant des heures. Je ne peins jamais dehors, c'est pas du tout mon truc. Je suis très casanière, je reste beaucoup chez moi. Mais il faut qu'il y ait énormément de lumière. J'ai choisi vraiment mon appartement en fonction de la taille des fenêtres.
Donc c'est la...
Et de la hauteur sous plafond. Enfin, que ce soit quand même un grand espace extrêmement lumineux dans lequel je peins. Et puis voilà, je pourrais ne pas sortir pendant des semaines.
Il y a un côté solitaire.
Oui. Oui, j'adore. J'adore être toute seule. Et peindre. Mais... Par contre, je me suis rendu compte ces dernières années, j'ai un peu la voix enrouée, que je pourrais pas vivre en dehors de la ville. J'adore entendre, par contre, plein de bruits, plein de sons, des gens...
La vie?
Hurler, oui. Oui, parce que, en fait, ça me déprime beaucoup quand je suis à la campagne, dans un lieu magnifique, en train de peindre, mais sans aucun son, avec uniquement les oiseaux, c'est pas du tout mon truc. J'adore, moi, mon quartier... qui est très très vivant et populaire avec des gens qui hurlent toute la journée en bas, des scooters, des accidents de voiture, des bébés qui pleurent, j'adore.
Oui, enfin, c'est la vie.
Oui. Oui, dans mon appartement, c'est très paisible, et puis en cas de besoin, je descends, et là, je m'en prends plein dans la tête, et puis même toute la journée, j'entends plein de sons, mais...
Et qu'est-ce que c'est une journée type pour toi?
Donc je me lève très tard, si dans ma journée j'ai rien d'autre à faire que peindre.
C'est quoi ta...
Enfin mon idéal, c'est mes journées idéales quoi, dans ce cas-là. Je me lève très très tard, 11h, parce que je me couche très tard.
Ah oui.
Oui, j'aime beaucoup peindre la nuit, donc du coup c'est compliqué le matin. Enfin je me lève entre 10 et 11h disons. Si je me suis couchée à 3-4 heures la veille. Et ensuite, je mets longtemps à m'y mettre. Parce que j'ai du mal à travailler avant 14 heures, quoi, je dirais. Enfin, à peindre.
T'as un démarrage long.
Exactement. Donc, je bois un café, je bois du coca, je regarde des trucs sur Internet, j'écoute de la musique, et puis au bout de quelques heures...
Il y a une sorte de sas de décompression d'abord.
Oui, de 2 heures, je pense. Enfin, c'est long, quoi. Et ensuite, vers 13-14 heures, je me mets à peindre. Et là, je peins, je m'arrête plus, quoi. je pourrais peindre en continu jusqu'à 4 heures du matin après.
Tu fais des pauses sucre.
Oui, c'est ça. Je mange vite fait en peignant, quoi. Genre un œuf, des nouilles, des coquillettes au beurre, vraiment hyper rapide. Le soir après, on dîne. Là, il y a Iva qui vient.
Iva, c'est ta fille.
Oui. Qui vient maintenant entremêler tout ça. Donc, à 17h20, je cours à l'école. Ensuite, je rentre avec elle. Et là, du coup, pendant toute la soirée, je ne peins pas. Mais avant, quand j'avais pas d'enfant, je peignais vraiment jusqu'à 4h du matin. Avec Alex, on adore cuisiner aussi, donc le soir, par contre, il y a un vrai rituel où on cuisine pendant un bon moment et on dîne. Maintenant, je ne travaille plus le soir, mais très souvent, du coup, maintenant, je me remets à peindre à 1h du matin et je peins de 1h à 4h. Ces derniers temps, j'ai souvent fait ça, où je me remettais au travail à 1h du matin ou à minuit. C'est vraiment le moment où je suis la plus créative et le plus motivée. Enfin, ouais, c'est dingue. Oui, je pourrais vivre que la nuit, en fait.
C'est une créativité nocturne.
Oui, depuis tout le temps, d'ailleurs. Parce que je me rappelle que quand j'étais ado, même au collège ou même à 13 ans, très souvent, je dessinais de minuit à 5 heures du matin, quoi. Et ensuite, le lendemain matin, mes parents m'engueulait parce que à 11h30, j'étais encore en train de dormir.
Tu te rassasies pas de dessiner. Justement, j'allais te demander, tu as une formation de graphisme, en fait. Mm-hmm. Tu as fait l'école, tu peux nous en parler un peu de ta formation et de ce goût pour le dessin qui n'a pas été académique, en fait.
J'ai fait un bac art appliqué. Donc, du coup, c'est vraiment sur 3 ans, enfin, seconde, première, terminale, on a énormément d'art. Il y a 25 heures par semaine en terminale de cours d'architecture, de stylisme, de peinture, de vraiment tous les domaines de l'art. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai été prise à La Martinière à Lyon en design graphique.
Une des meilleures écoles.
Ouais, elle est chouette. Enfin, j'étais très contente. J'aimais pas trop l'école, mais... Enfin, aller en cours, enfin les règles quoi, les heures, les horaires et le rythme. Mais c'était chouette, oui. Ça m'a plu malgré le fait qu'on ne peigne pas du tout.
Donc on peut dire que t'es autodidacte. T'as eu une formation quand même pendant le lycée, pendant ces heures de cours, mais ta technique qui t'est propre, tu l'as vraiment développée toute seule.
Oui.
Parce que t'as un coup de pinceau très sûr. Enfin, quand on voit quelques vidéos où tu peins, tu racontais que c'était sans croquis préparatoire en plus.
Oui, je dessine. Enfin, je dessine au crayon et ensuite je peins directement.
D'accord.
Ouais. Non, il y a pas de croquis. J'ai pas de carnet de croquis du tout.
Donc c'est très spontané. Tu dessines.
C'est très spontané. C'est très spontané. Ouais.
Et il y a quand même une façon de peindre, très intuitive aussi chez toi, mais qui est tellement juste, et qui justement, je pense, c'est des heures et des heures de peinture avant, ça fait longtemps, enfin ça vient de loin cette technique, j'imagine.
Oui, je pense que ça...
T'as toujours peint, t'as toujours dessiné, tu racontais ça aussi depuis petite.
Ouais, j'ai toujours peint et toujours dessiné. Je pense plusieurs heures par jour depuis 20 ans, enfin, même plus de toute façon, parce que même quand j'étais toute petite, je passais ma vie à faire ça. Mais... Oui, j'ai pas pris de cours académiques de dessin, ou j'ai jamais pris de cours où on dessine des modèles vivants, enfin.
Et pourtant, on te sent très à l'aise dans tout, parce que nous, on se connaît depuis quand même, je sais pas, les premières séries qu'on a montrées à la galerie de ton travail, c'était
il y a un moment. Hein.
2016.
Oui, je pense, à peu près.
Et c'était les maisons montagnes. Et c'est vrai que tu fonctionnes beaucoup par série, en fait, comme pour les sujets que tu aimes et que tu peins, tu vas les déployer sur plusieurs motifs, en fait. Et cette série de maisons de montagne, elle était magnifique, c'était la première série qu'on a exposée à la galerie, c'était des montagnes qui prenaient possession de maisons, en fait.
Oui, en fait, le toit des maisons, devenaient des montagnes. Ouais, c'était des montagnes, oui.
Alors, c'était une inspiration de paysage.
C'était vraiment du paysage, mais... Ouais, c'était un petit peu la nature qui vient... La maison, c'est très important pour moi, c'est comme pour les fenêtres. Après, je suis passée sur les fenêtres, mais... Le côté... L'habitation a toujours été présente, je fais très peu de paysages.
Oui, c'est aussi la présence et la vie, la maison.
Oui. Oui, oui. En fait, la maison... Oui, au lieu de dessiner... Moi, je dessinais jamais de personnages dans mes paysages, mais je dessinais des maisons.
Mais il y a quand même un fil conducteur, parce qu'après les maisons de montagne, comme tu disais, on a eu les fenêtres.
Oui.
C'est une nouvelle inspiration.
Et là, bah, en fait, je suis rentrée dans la maison. Oui, oui, oui. Je dessinais des maisons dans des paysages. Et ensuite, je suis rentrée dans la maison et je me suis rendu compte que c'était plus cohérent que je sois à l'intérieur, vu que je passe mon temps derrière de grandes fenêtres, et de plutôt dessiner des paysages. Je suis passée par une période où j'ai dessiné des paysages à travers des fenêtres, où on voyait vraiment la nature à travers la fenêtre, mais vue de l'intérieur de la maison, comme moi je fais au quotidien. Et ensuite, j'ai supprimé le paysage pour mettre uniquement de la lumière. Ben, comme sur toutes les peintures que vous avez à la galerie de mes fenêtres.
On n'a pas précisé, mais tu peins à l'acrylique.
Quand j'étais ado, je peignais à l'huile ou à... Enfin, j'ai testé un petit peu toutes les peintures possibles. Et puis, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était l'acrylique. J'ai jamais arrêté depuis. Enfin, ça fait 15 ans que je peins... que à l'acrylique.
Et donc après cette série de fenêtres, c'est aussi assez particulier, parce que quand tu exploites un sujet, comme on le disait, il n'y en a pas eu une, deux, trois, quatre, il n'y en a pas eu 10 de fenêtres, il y en a eu, je ne sais pas combien de fenêtres tu as dessiné. D'abord, tu as dessiné les tiennes, et ensuite tu as allé explorer les fenêtres des autres, et tu les as peints, et des fenêtres, les séries, mais elles étaient toutes singulières en plus. T'as réussi à renouveler sans cesse le motif de la fenêtre sans jamais l'épuiser, et ça allait jusqu'à, je sais pas, 50, 60 fenêtres.
Ouais, je pense à peu près.
T'as créé des ouvertures sur le monde, et les gens se sont emparés de tes fenêtres et les ont installées chez eux comme des fenêtres supplémentaires, et c'était magique.
Mais c'est vrai que ça me plaît aussi ce principe de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé leurs fenêtres, des photos de leurs fenêtres à eux. Et ce principe de sorte de communauté où on m'envoie des images, ça me plaît vraiment. De faire rentrer les gens qui aiment mon travail, mais vraiment dans mon travail.
Parce que c'est particulier aussi cette connexion que tu as avec ta communauté Instagram qui interagit beaucoup avec toi, et toi aussi avec eux, forcément tu leur réponds. Oui. Et qui rentre dans ton processus créatif. Même pour les câlins, l'exposition de ce soir, ce sont aussi des photos que que les gens qui te suivent ont envoyées en disant voilà, si vous voulez peindre mon câlin. Et donc tu te nourris aussi de ça. C'est très intéressant parce qu'ils participent à ton processus, et ça doit aussi eux leur faire plaisir.
Oui, bah en fait c'est hyper important pour moi, parce que mon but, c'est vraiment de peindre pour ces gens-là. Ben, donc les faire participer au projet, c'est très important. Ça change tout. C'est mon moteur, quoi. Je peins pour moi, parce que quand je peins, c'est quelque chose, c'est mon activité préférée dans la vie, donc si je peux faire ça, c'est génial, si je peux faire ça de mes journées. Mais par contre, le résultat n'est pas du tout pour moi. Je n'ai aucune peinture à moi sur les murs de mon appartement, je m'en fous complètement. Moi, je veux vraiment que mes peintures soient dans les maisons des gens qui aiment mon travail.
Et tu disais que tu peignais pour te faire du bien et pour faire du bien aussi. Enfin, il y avait quelque chose
Exactement.
Assez...
Ouais. Bah, c'est ça. Ouais, le but,
c'est... Profond et sincère dans la démarche.
Le lien avec les autres. Je sais qu'il y a des artistes qui peuvent passer leur vie à peindre chez eux sans jamais rien montrer et sans jamais rien offrir ou vendre, enfin garder des œuvres cachées et tout ça. Moi, c'est vrai que le but, c'est de faire du bien et de pas spécialement de vendre mes œuvres d'ailleurs, mais par exemple, quand j'ai déménagé, j'ai J'ai sorti toutes les peintures que je stockais sous mon lit et je les ai mises dans la rue. J'avais un peu la flemme de les déménager. C'était des peintures qui étaient là,
heureux, là,
qui étaient là depuis des années.
D'accord.
Et dont je faisais rien. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais pas les conserver plus longtemps. C'était très grand.
Ah oui, c'était des grands formats en plus.
Oui. Et du coup, je suis allée sur le trottoir, j'ai tout posé. Et ensuite, bah, les gens se sont servis. C'était marrant. Je les ai regardés faire et puis voilà, de loin.
Ah oui, c'est spécial quand même.
Mais c'était, voilà, je conserve pas mes peintures, je m'en fiche un peu. Enfin, le but, c'est vraiment que ça aille, que ça soit transmis.
J'espère que tu les avais signées parce que...
Non, je pense pas.
Ah bon?
Mais voilà, c'est comme l'idée des boîtes dans lesquelles on dépose des livres dans la rue gratuitement, enfin.
Et après, pour finir, pour continuer dans la série de ce que tu peins, à un moment, t'as peint après la série des fenêtres, est venue la série des crustacés.
Oui. C'était un moment spécial pendant le confinement où on avait faim. Je pense. Je sais pas. On adore les crustacés. On en mange essentiellement en Bretagne quand on va en vacances l'été. Et là, en plein confinement, on s'est retrouvés à... Enfin, on avait envie de bouger, je crois. Ça nous a fait voyager, en fait.
Oui.
On a consommé énormément de crustacés. Enfin, on les mangeait. Et moi, je les peignais aussi, du coup.
Oui, tu racontais que t'as commencé à les peindre parce que t'avais envie d'en manger.
Oui,
et
exactement.
Une fois le crustacé fini, tu voulais pas manger ta peinture, donc tu commandais des crustacés.
Oui, ouais. Je passais des heures sur Internet à chercher des photos de homards déjà, et puis à la fin de la journée, et d'huîtres. J'ai fait beaucoup d'huîtres, une grande série d'huîtres. Et à la fin de la journée, j'appelais le poissonnier pour qu'il nous livre, parce qu'il avait pas le droit d'être ouvert. Enfin, il était fermé.
Elles étaient super, moi, ces peintures. Hein.
Ah bah,
elles
merci.
Étaient magnifiques, ces peintures. C'était plus vrai que vrai, quoi. Je comprends qu'en fait, tu voulais vraiment les manger. C'est vrai. Il y avait d'ailleurs une nouvelle de Marcel Aimé comme ça, non? Où on se nourrit d'une peinture. Les gens se nourrissaient de peinture, ils les regardaient et ça, ils se rassasiaient de voir les peintures. Mais toi, il fallait quand même acheter derrière les vraies huîtres.
Oui. J'en ai acheté énormément. J'ai fait, même maintenant, mon poissonnier, me suit sur Instagram.
Bah, il a participé.
Oui.
À cette série.
Beaucoup.
Il a été, bah, comme tu fais participer un peu tout le monde, là pour le coup c'était le poissonnier.
Bah oui, je l'ai contacté directement en lui disant vous voulez pas me choisir les plus belles huîtres parce que je vais les peindre aussi, donc du coup bah, j'ai essayé de magnifier les huîtres qui sont pas spécialement belles, pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les crustacés et qui trouvent ça, enfin c'est étrange quand même, gluant. Et je voulais les rendre belles en les peignant, du coup. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui détestent les huîtres, qui les achètent, du coup.
La reconnaissance de l'huître. Et oui. Et ensuite, donc est arrivée cette série donc, de câlins que tu as commencé à dessiner. Alors, le même processus créatif, peut-être, ça veut dire que tu dessines un câlin. Ensuite, les gens t'en envoient sur Internet, sur Instagram, pardon, t'envoient des photos. Et la série commence à
s'étoffer.
La genèse de la série arrive comme ça, par interaction avec les gens.
Oui,
ça déclenche quelque chose.
Oui, ça a vraiment été ça. C'est une sorte de ping-pong. J'ai fait un premier câlin. Et ensuite, j'en ai reçu plein. Ça m'a vraiment touchée. Enfin, plein de photos. De vrais couples. Après ces câlins, j'ai reçu, en fait la plupart des câlins que j'ai reçus c'était des gens avec leurs animaux de compagnie au début. C'est marrant.
Oui,
c'est très important, enfin c'est très très important en fait, les câlins avec les chats et les chiens. J'en ai reçu énormément, des photos. Et ensuite des câlins de parents avec leurs enfants, frères et sœurs, couples, mais il y avait vraiment de tout.
Oui, c'est l'amour, la tendresse dans le sens large, quoi, c'est pas...
Ouais, ça a réveillé tout de suite quelque chose, parce que le premier câlin que j'ai peint, enfin, je l'ai montré tout de suite, parce que j'ai fait ça pour passer le temps. J'ai pris un carreau de céramique que j'avais dans ma buanderie depuis des années, et j'ai fait un câlin dessus, mais c'était, voilà, pour passer le temps. Derrière, j'ai reçu un flot de photos. Donc, je me suis dit, ah bah, il y a quelque chose à faire.
Bah, c'est ce que tu racontais en introduction, en note d'intention de ton expo, que c'est quelque chose dont on a manqué pendant un certain temps, peut-être encore maintenant, de se toucher.
Je pense, oui, complètement. Ouais, oui. Et même dans mon entourage, je connais beaucoup de gens qui ont passé des mois et des mois et des mois seuls chez eux.
Et encore maintenant, on hésite presque à se faire la bise, ou c'est presque un...
C'est vrai qu'on...
hésitation à chaque fois de se dire...
Oui, mais hier soir, je dînais avec des amis, on ne sait jamais si on se fait la bise ou pas. Enfin, les gens se demandent entre eux la question, maintenant, elle est devenue complètement... Oui, c'est vrai qu'avant, moi, quand j'arrivais dans une soirée où il y avait 20 personnes autour d'une table, on faisait la bise à tout le monde. Enfin, maintenant, la question ne se pose plus, on se fait coucou. Mais oui, je pense que c'est ça, ça a beaucoup joué sur l'expo.
Mais il y a quand même un fil conducteur par rapport à ton travail sur les fenêtres, parce qu'on retrouve le drapé, le soin que tu mets dans les textures, les étoffes, c'est magnifique en fait. Elles sont petites, hein, c'est des petits câlins de 10 par 10 sur ces carreaux de céramique. Mais on retrouve ta signature qui est le soin apporté à la peau aussi.
Oui.
Parce que...
Mais en fait, la peau me fait beaucoup penser au textile. Enfin, dans les nuances, dans les ombres et les lumières que je mettais dans les fenêtres, parce qu'il y avait beaucoup de rideaux et de voilage. Je trouve qu'on retrouve ça dans les nuances de la peau... Et des mains qui s'entrelacent, c'est quasiment comme du textile, ça. Quand je peins, il n'y a pas beaucoup de différence entre un drapé et deux mains entremêlées.
Et c'est ça qui est remarquable, parce que la peau, c'est difficile à rendre, des fois, quelle que soit la couleur de peau. Et alors que chez toi, elle est très, très naturelle, elle est très veloutée, elle est ambrée, elle est juste.
Ben, j'essaye. Mais j'aime bien aussi rajouter du bleu, du vert. Enfin, je mets pas mal de bleu dans mes peaux, d'ailleurs. Mais il y a des variations de couleurs. Par exemple, sur cette peinture-là, il y a quand même du bleu, du vert. Il y a des couleurs étranges. Et ça me dérange pas. Je trouve ça... C'est vraiment au feeling. Hein. Moi, des fois, je mets des couleurs un petit peu au hasard. Et l'acrylique, ce qui me plaît dans le fait de peindre à l'acrylique, c'est que ça sèche extrêmement vite. Donc au bout de 5 minutes, je repasse par-dessus. Enfin, c'est vraiment des couches et des couches et des couches.
Jusqu'à l'obtention de résultats que,
oui.
que tu...
Oui, mais c'est très pratique parce qu'en fait, j'hésite pas à mettre du jaune ou du bleu. Je me dis tout le temps, dans 5 minutes, je vais recouvrir ça avec du rose poudré et tout ira bien, quoi. C'est pas du tout comme l'huile... qui sèche en je sais pas combien de jours, mais là, je viens tout le temps reprendre ma peinture. Et à la fois, c'est traître, parce que je peux pas vraiment faire de mélange ni de dégradé, vu que ça sèche très très vite. Pour le coup, je peux pas trop... Bon, je viens estomper avec mes doigts constamment, mais bon, faut aller vite. Et ça m'intéresse aussi, ça, parce que je peins vite. Enfin, j'essaye de peindre le plus vite possible.
Oui. Tu disais aussi que il y a une sorte d'urgence quand tu peins, parce que tu peux commencer à peindre vers 22 heures et tu ne vas pas aller te coucher jusqu'à que ta peinture soit terminée, en fait. Parce que le lendemain, peut-être que tu vas la rogner, cette peinture. Donc, oui, il y a un risque. Donc, il faut que tu la termines.
Ouais, j'essaye vraiment de terminer avant d'aller me coucher. Donc, c'est... Des fois, je regarde l'heure et je me dis « Il est déjà 3h30 !» Et j'essaye d'aller le plus vite possible. Il y a très peu de peintures que j'ai fait sur plusieurs jours. Les grands formats, oui. C'est aussi pour ça que je fais très peu de grands formats. Et que ce soit mes crustacés ou les fenêtres ou les câlins, tout est fait en une journée maximum, voire une demi-journée. Et j'essaye de pas faire de pause, d'ailleurs. Enfin, Mais oui, ça me plaît. Je pourrais pas du tout passer 3 semaines sur une peinture. Impossible. Enfin, je l'arrêterai en cours et elle irait sous mon lit. C'est toujours ça, parce que j'ai beaucoup de place sous mon lit.
C'est un lit à baldaquin.
Je cache beaucoup de choses.
Ah bon?
Non, c'est un lit coffre. Quand on relève, en fait, en dessous, c'est rempli de peinture. Enfin, il y a ça, quoi. Sur 2 mètres carrés.
Et là, pour cette expo, t'as peint aussi sur du tissu. Enfin, c'est pas la première fois, mais t'as fait des peintures sur du lin. Et ça rend un côté peau encore plus remarquable, plus soutenu.
Oui, ça, j'avais pas prévu. Je pensais peindre sur papier. En fait, il y a absolument aucune peinture sur papier, d'ailleurs, pour l'expo. C'est lin ou céramique, mais c'était pas prévu. J'ai testé sur le lin. Je me suis rendu compte qu'en effet, la texture de la peau était très fidèle à la réalité. Sur le lin. La trame du lin.
C'est parce que les pores de la peau, tu disais.
Oui, c'est vrai qu'il y a des trous. On les voit et ça rappelle beaucoup la peau.
Il y a un effet profondeur, enfin, et très réaliste. C'est très beau.
Mais
c'est
alors, sur papier, ça ne donne pas du tout la même chose. J'ai essayé. Quand je peins des corps sur papier, je déteste le résultat. Vraiment. Je déteste. Ça ne rend pas du tout la même chose. J'arrive pas à...
Et là, même sur céramique, le fait que ce soit un support en céramique, ça donne une épaisseur aussi au traitement du corps, en fait.
Ouais, et puis ça donne un petit côté intimiste, le carreau. Ça rappelle la maison, déjà. C'est vraiment les carreaux qu'on met dans notre salle de bain. Et je trouve ça cohérent. Et le format tout petit. C'est vrai que pour le câlin, je trouve que ça fait sens. D'avoir un petit câlin, même un petit câlin caché dans le coin d'une pièce.
Tu peins sur des objets qui sont assez modestes, en fait. Souvent, tu m'expliquais que tu pouvais peindre sur des chaises, mais des chaises de récup. Ouais. Tu aimes beaucoup peindre sur des choses du quotidien, en fait, des choses qu'on utilise tous les jours. Là, les pièces de lin que tu as utilisées, ce sont des sets de table. Mmh. Tu récupères
les serviettes de table, en effet. Et oui, j'aime bien vraiment peindre sur n'importe quoi. Très souvent, je fais les poubelles, enfin mes poubelles, pas les poubelles de la rue, mais si, d'ailleurs, ça m'est arrivé de récupérer des bouts de carton. Et justement, de prendre des bouts de carton déchirés et d'essayer de peindre un truc chouette dessus. Le contraste entre l'objet en lui-même et ce que je vais rajouter par-dessus, oui, j'aime bien. Ou par exemple, un câlin, je sais pas comment dire, enfin, en fait, le contraste entre l'objet et ce que je vais apporter par-dessus, je trouve ça intéressant. Mais j'ai peint, aller chez Emmaüs pour acheter plein d'objets divers et variés et peindre dessus, c'est quelque chose que je fais souvent. Des vieilles assiettes. Des vieux plateaux rouillés. J'ai peint beaucoup d'objets comme ça.
Et on va aborder un sujet. L'écriture a une importance énorme. C'est un pivot dans ta création, l'écriture. T'écris depuis presque... Enfin, oui. Tu disais l'âge de 14 ans, depuis que t'es ado.
Oui.
T'avais un blog.
Oui, sur lequel j'écrivais tous les jours. Obligatoirement. J'avais un téléphone, d'ailleurs, à ce moment-là. Qui avait un clavier, enfin c'était vraiment un des premiers téléphones qui avait un clavier avec toutes les lettres, quoi. Pas du tout, pas le petit clavier où on doit appuyer trois fois pour faire le C, enfin là c'était un clavier AZERTY. Et quand j'étais en cours, j'écrivais sur mon téléphone, dans mes notes. J'écrivais pendant des heures et des heures quand je m'ennuyais à l'école. Et le soir, je rentrais et je recopiais le texte sur mon blog, chaque soir. Il n'y avait pas un seul jour dans l'année où il n'y avait pas d'article, c'est sûr.
Tu racontais ta vie, ta journée qui venait de se passer?
Ouais, ce que j'avais ressenti, c'était des détails. Enfin, parfois, c'était uniquement quelqu'un que j'avais vu passer dans la rue qui m'avait touché, et puis du coup, j'écrivais tout un texte sur cette personne. Mais même quand je partais en vacances, si je partais en vacances pendant une semaine, je sais que j'écrivais des textes. J'écrivais des textes en avance que je donnais à ma meilleure amie et qu'il les postait sur mon blog chaque jour.
Ah oui, c'était important.
Très important.
Cette connexion aux gens, elle est hyper importante pour toi, que ce soit par la peinture ou l'écriture, c'est...
Oui.
C'est presque vital.
Oui, oui, oui. Bah oui, en fait. Mais tout le temps virtuel.
Parce que ce blog, il était suivi.
Oui, beaucoup.
Tu avais beaucoup de gens qui le lisaient. Je sais pas quelle personne le lisait. C'est des gens de ton âge ou
Oui, qui ont maintenant 30 ans.
Et qui te connaissent toujours depuis tout ce temps-là. Tu disais qu'il y avait des gens qui te suivaient depuis 14 ans.
Oui. Ouais, c'est chouette. ils sont très fidèles, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment fou. Ces gens-là, il y en a, et en plus, il y a une énorme partie qui, avec qui je n'interagis pas, qui m'ont juste lu quand ils étaient ados, et qui continuent de suivre mon travail maintenant, mais chaque jour, je reçois un petit message de quelqu'un qui me dit, oh, je te connais depuis que j'ai 14 ans. Et je t'ai retrouvé par hasard en tapant Jessica Alice et je viens de tomber sur ton Instagram. Mais c'est génial.
Oui.
Mais c'est assez incroyable. Enfin, c'est pour ça que c'était très important pour moi d'assurer, quoi.
Et puis, il fait partie de ton processus même de presque de création et de professionnellement, ça t'a servi parce qu'on t'a fait assez jeune des livres, t'as travaillé dans, oui. Enfin, t'as édité 4 livres jeunesse. Et ce sont des personnes, des éditeurs qui t'ont repéré par ton blog, en fait.
Ça dépend. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a généré énormément de projets.
Oui, ouais. Voilà.
Ouais. Ça a tout changé. Ouais.
C'est un fil conducteur qui t'a immergé aussi dans le milieu du travail aussi.
Oui. Oui, oui. Ouais. Depuis le début, très vite, quoi.
Mais on comprend, parce que moi, j'ai lu quelques pages de ton blog, je l'ai découvert il y a peu, mais c'est très bien écrit, on est en immersion totale dans ton univers, ça fait
après,
rêver.
C'est vieux, c'est vrai que moi, je retourne pas souvent lire ces textes-là.
Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à les... Enfin, c'est très bien écrit, c'est
parce
pour une si jeune personne,
franchement... C'est pas bien grande, hein. Ouais, c'est très vieux, quoi.
Oui, ouais. C'est très touchant, c'est très sincère.
Oui, j'étais très jeune. Donc, si j'écrivais maintenant, je sais pas ce que ça donnerait, mais... Ouais, c'est drôle.
Oui, tu l'as pas continué, tu l'as stoppé ton blog, en fait.
Ouais, d'un coup. Mmh. Ouais.
Tu l'as continué pendant tes études aussi de graphisme, tu continues à le tenir?
Un tout petit peu. Mmh. Un tout petit peu, j'ai très vite arrêté et je me suis mis à peindre. En fait, la peinture a remplacé l'écriture, complètement. Parce qu'à ce moment-là, je peignais beaucoup moins que maintenant. Il y a un moment, je me suis dit, toutes les heures que je passais à écrire, je me suis mise à les passer à peindre. C'est des moments extrêmement simples que j'essaye de capturer. Donc avant, je le faisais avec l'écriture et maintenant, je le fais avec la peinture.
Et tu l'es dit avec des mots simples, mais c'est...
Ah oui, j'adore. Par contre, ouais, ça, c'est très important dans l'écriture, pour moi, d'être brute, de dire les choses très simplement. J'aime pas du tout partir dans des...
Oui,
des phrases complexes, des élans, voilà, c'est ça. Je sais pas comment décrire, mais... Je déteste ça.
Il y a une sobriété
dans les livres.
Oui, mais même comme dans ta peinture, hein. Il y a une sobriété dans la composition de tes écrits, comme de ce que tu fais en dessin, qui est très touchante, très sincère.
Ouais, sincère, exactement. Ouais. C'est plutôt brut, quoi. Même dans l'art brut, j'aime bien. Et puis, les choses simples, en fait.
Même dans ce que tu fais, la palette de couleurs, elle est très restreinte.
Oui.
Oui. Intentionnellement, je pense, c'est assez sobre et mesuré, en fait. Même dans cette série de câlins, la palette, elle est assez homogène. 4-5 couleurs, pas plus.
Exactement. Mmh. Ouais, c'est ça. À peu près, oui. Moins de 10, en tout cas, c'est sûr. J'utilise toujours les mêmes tubes, les mêmes couleurs que je rachète à chaque fois, mais c'est... Oui.
Il y a quelque chose de très doux aussi, du coup. Mais le fait que ce soit très réduit, c'est apaisant, c'est... une sérénité qui se dégage de ton travail.
Ah mais j'essaie.
Lié à cette palette.
J'essaye en tout cas. Oui, ça je fais pas du tout exprès, mais oui, j'essaye.
Et du coup, donc, ces 4 livres, tu les as édités quand tu étais étudiante encore à la Martinière.
Oui.
C'est incroyable, tu étais toute jeune et les maisons d'édition ont accepté ou bien sont venues te voir. Donc c'était Glénat, c'était Thierry Marnier.
Thierry Marnier, oui, Glénat. Oui. Enfin, je leur proposais. Je faisais des livres le week-end et je les envoyais par mail. Et voilà.
Et ça mordait, quoi. Ça...
Oui. À chaque fois.
4, c'est pas
d'ailleurs.
Mal, hein.
Oui, il m'en reste pas.
Enfin... Et tes profs, tu racontais que tes profs étaient surpris, tes profs de graphisme n'étaient pas au courant.
Non.
N'étaient pas au courant de ta
carrière
dans l'édition.
Ouais, c'est ma maman qui leur a envoyé un livre, et puis ils se sont rendus compte que je faisais ça à côté de l'école. Et en fait, je leur disais pas, je séchais beaucoup les cours, et puis je parlais pas de ce que je faisais à côté, mais oui, parfois je séchais des journées entières pour travailler pour Bayard, Choupi, Astrapi, enfin pour des commandes d'illustration jeunesse. Mais bon, j'en parlais pas, donc je disais que j'avais mal au ventre.
Donc ils sont venus te voir en disant, mais c'est quoi ces quatre livres?
Oui, ils m'ont dit, il fallait nous le dire.
Oui, ouais, ouais,
c'était drôle.
Oui, ils ont dû avoir l'impression d'être passés à côté de quelque chose aussi.
Oui, ouais, ouais, ouais.
Et quand t'es sortie de tes études, quand tu les as terminées, t'as eu une expérience assez atypique que tu nous as racontée, où t'as pris le nom d'un homme pour commencer ta carrière dans l'illustration. Tu l'as pas commencé avec Jessica Lys, t'as pris un nom d'homme pendant 7 ans. Tu t'es appelé Todd Borka.
Ouais.
Et t'as travaillé sous ce pseudo avec une identité masculine.
Oui.
Tu peux raconter ça?
En fait, le but était dans un premier temps d'être libre de faire n'importe quoi en art, de dessiner et peindre n'importe quoi. Je me disais, j'avais un peu honte de mon boulot, donc du coup, je voulais me cacher. Enfin, le but c'était d'être caché, c'est tout. Donc je me suis dit dans un premier temps, je vais prendre un pseudonyme de femme, et puis en cherchant des idées de prénoms, de noms de famille, je me suis dit autant prendre un nom d'homme et un nom d'homme international. Bon, Todd, ça fait pas très français. Comme ça, on va à l'opposé de ce que je suis, quoi.
Ouais, Todd Borka, on peut le googler sur Internet. On retrouve encore Todd.
Oui,
il y a pas mal, t'as beaucoup beaucoup produit, et c'était un travail très différent de ce que tu fais. Enfin, très différent. Enfin, oui, quand même. Et
ouais, bah oui, ça n'avait rien à voir. Je voulais. En fait, le but était d'expérimenter. Sans que ça me catalogue, moi, en tant que Jessica Lys. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée libre de faire de l'encre de Chine. Enfin, c'est bête, mais je voulais expérimenter tout ce qui était... Voilà. Ne jamais hésiter le matin en me levant, en me disant, est-ce que ça va être cohérent avec ton travail si on tape Jessica Lys? Là, c'était Todd. Donc, Todd, c'était... Et t'as la liberté totale.
T'as eu beaucoup de travaux de commande avec Todd.
Oui.
Enfin, le Monde. T'as eu beaucoup de demandes d'illustration presse.
Oui.
Todd
oui.
a beaucoup travaillé.
Todd a pas mal travaillé. Ouais. Mais c'était drôle.
C'est atypique quand même pendant 7 ans. C'est long, 7 ans. Et est-ce qu'il y a eu des moments où il y a justement parce que quand le client qui a commandé quelque chose à Todd, à Jessica au bout du fil, la voix féminine qui répond.
Oui, comment ça arrivait très peu, parce que je téléphone très peu. Mais donc, j'essayais de limiter les échanges aux emails au maximum, évidemment. Beaucoup de clients se sont jamais rendu compte que j'étais une femme. Mais par contre, il y a eu des moments assez marrants où un client avec qui je parlais depuis 6 mois, m'appelle un matin, je me dis, je suis obligée de répondre, c'est hyper important, c'est la fin du projet, et puis là, je décroche. Donc, il m'a demandé de parler à Todd. Je lui ai dit, c'est moi. Et puis, ensuite, il a bégayé pendant je sais pas combien de minutes. Mais c'était drôle. Ouais, c'était à chaque fois, c'était cocasse.
Ah, j'imagine.
Et puis, oui, une fois, j'ai eu un rendez-vous à Paris. Je suis venue de Lyon, vraiment spécialement pour le rendez-vous en question, qui allait durer 2 heures. Et le monsieur de l'agence en question, qui avait une 60aine d'années en plus, m'attendait. Et du coup, je suis arrivée en tant que... Enfin, moi, quoi. Mais il était sûr de travailler avec un homme. Donc, je suis arrivée, j'ai dit, c'est moi, Todd Borka. Et là, lui, par contre, il était absolument pas étonné. Il m'a dit... il a même pas réagi. Je me suis assise, j'ai dit, vous vous attendiez à avoir un homme, non? Il me fait, oula... Moi, vous savez, les artistes, plus rien ne m'étonne. Il m'étonne plus du tout, les artistes. Et c'était drôle parce qu'en fait, on voyait qu'il avait passé 40 ans à travailler avec des illustrateurs et qu'il était étonné par rien.
il était un peu blasé.
Oui.
Ouais, ouais.
Mais non, il était génial, hyper drôle et tout ça. Mais par contre, ça l'a pas du tout choqué. Il m'a regardé, il a fait, Todd, asseyez-vous.
Ça devrait être comme ça tout le temps, en fait.
Et puis j'étais jeune, enfin j'avais 20, 22 ans, alors que Todd, je faisais croire qu'il avait 35 ans. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait dans... Enfin, j'avais menti sur absolument tout. Donc, c'était...
Bah, t'avais créé un nouveau personnage de toute pièce.
Oui.
D'ailleurs, même quand on parle aujourd'hui, on sent bien qu'il y a, c'est très différent. Il y a Todd et toi. Enfin, Todd, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme si t'avais créé un personnage de roman et que... Il a rien à voir avec toi.
Oui, quand c'est je parle Todd. De Todd, je dis jamais je. Non. Enfin, non, je dis pas je, c'est Todd.
Oui.
Ouais. Ouais, c'est drôle. Ouais.
Oui, oui, c'est comme les acteurs. Enfin, t'es rentré dans la peau d'un personnage et c'est ce qui peut arriver peut-être parfois au cinéma où tu.
Oui, je pense, c'est exactement ça. Ouais. Mais c'est plaisant. Enfin, pour la liberté que ça apporte.
T'as une autre vie, quoi.
Moi qui suis pas trop à l'aise avec ce que je crée maintenant, ça va un peu mieux. Enfin, je suis un peu plus à l'aise avec mes peintures, mais à l'époque, pas du tout. Et du coup, c'était un truc de liberté complète. Alors que j'ai rien fait de dingue. J'aurais pu montrer ça sous le nom de Jessica Alice, mais j'en étais pas capable de travailler sous mon nom, j'en étais pas capable.
Ça te donnait une liberté d'esprit, de création, en disant personne ne va me juger.
Oui.
Et quand t'as repris le nom de Jessica, comment ça, t'as ressenti le... Le changement d'identité dans la suite de tes travaux de commande.
Je sais pas. C'est la maturité. En grandissant, au bout d'un moment, je me suis sentie capable de travailler sous mon nom à moi. Mais tout en ne faisant aucune exposition ni rien.
T'as senti une différence par rapport à ton travail, justement, les commandes que t'avais, la façon que les clients avaient de gérer le relationnel, quand t'es Todd ou quand t'es Jessica, est-ce que les choses... Parce que t'as vécu un truc complètement remarquable, tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir vérifier ce que c'est que d'être un homme, et puis une femme ensuite.
Oui, donc c'est vrai que je me suis fait la réflexion qu'en tant que Todd, j'étais mieux traitée, même sans rencontrer les gens ou sans même leur parler au téléphone. Les projets étaient de plus grande envergure, plus de budget. Au niveau du respect, c'est surtout relatif à l'argent, ça, parce que j'ai été payée 10 fois plus vite et bien mieux, beaucoup plus respectée, même dans les échanges. Je voyais que j'étais pas prise de haut par les personnes dans les agences de com, dans la pub essentiellement.
Oui, c'est fou parce qu'on s'en rend, enfin on le réalise pas forcément aujourd'hui même en 2022 qu'il puisse y avoir une différence de traitement comme ça en fonction de son sexe dans ce domaine-là de l'illustration. Personnellement, moi je pensais que c'était quand même plus équitable que d'autres domaines.
Même dans la formulation des mails que je recevais, c'était très différent.
Ah ouais.
Ouais. Oui, oui. Oui, il y avait un respect.
Et là, de quoi t'as envie maintenant ? Si tes projets, tes rêves, qu'est-ce que t'as envie de faire ?
Je sais pas du tout.
Maintenant, t'as porté cette expo qui a dû bien t'occuper.
Oui. Après. Et justement, j'attendais de terminer l'expo pour
partir en vacances.
Non. Non, mais oui, en gros, dans ma tête.
En Bretagne.
Mais
manger des pistaches.
Pour ne rien faire pendant quelques jours et réfléchir à la suite. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Et moi, j'ai adoré peindre des corps sur du lin, donc je vais peut-être continuer là-dedans. Mais... Ou peut-être au contraire, pour sortir un peu de l'expo qui m'a bien stressée, changer, repartir sur du paysage. Mais je sais pas, c'est vrai que maintenant que j'ai fait beaucoup de corps, je vais avoir du mal. Je trouve ça beaucoup moins vivant, du coup, de peindre la mer. Alors qu'avant, je trouvais ça génial de peindre des paysages. Et je vais avoir un petit peu du mal à retourner aux natures mortes ou aux paysages. Donc, je sais pas, en fait.
T'avais fait un dessin, c'était toi, avec la mer à l'intérieur, pour une expo collective ici. Ça s'appelait...
Océan Moi.
Océan Moi, ça s'appelait Océan Moi, c'était magnifique, c'était d'après une photo qu'on avait prise de toi en profil, et à l'intérieur il y avait l'océan, c'était...
Ouais. Oui, oui, c'est quelque chose que j'adore, l'océan, c'est vrai que contempler l'océan, c'est pour ça que j'avais fait ça, j'avais rempli ma tête.
Alors on va faire un petit tirage de cartes, on va te faire sortir, tu verras justement peut-être la réponse à ta question de ce que tu vas faire.
Ah génial.
Bientôt.
Trop bien.
Là, c'est l'ancien tarot de Marseille. C'est 22 cartes, 22 lames majeures, comme on dit. Donc, c'est un très vieux tarot. Et déjà, il est vieux aussi physiquement, le pauvre, parce qu'il doit avoir au moins 30 ans. Les cartes, elles sont toutes vieilles. Hein. Mm-hmm. Mais tu vas les brasser avec tes belles mains. D'ailleurs, je voulais faire un petit point sur tes mains. Elles sont très belles. Tes mains, elles sont fortes, puissantes, musclées et fines en même temps. Il faudrait les peindre, tes mains, Jessica, parce que en plus, tu les peins très bien, les mains. Il faut les brasser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la main gauche.
Et là, j'en choisis une.
Et là, t'en choisis une avec la main gauche. Et tu me la donnes.
C'est pas ma main, la main gauche. Hein.
Ah!
C'est quoi?
C'est l'ermite. Ça te correspond un
peu?
C'est
drôle.
C'est
oui.
drôle. L'ermite, c'est une carte qui représente justement la mise à l'écart, se mettre en retrait pour y voir plus clair. C'est un vieux monsieur qui tient une lampe. Mm-hmm. Et donc, on comprend que c'est une période qui va arriver. Et qui sera une période où on a envie d'être au calme pour pouvoir se recentrer sur soi, avec sérénité et réfléchir. Et c'est une carte de sagesse aussi. Mm-hmm. C'est une carte où on se met volontairement un peu en dehors du monde. Et pour, tu vois, il tient une lanterne pour pouvoir mieux tracer son chemin, enfin prévoir la suite, ce qu'on a envie. Donc, c'est pas une carte d'action. C'est pas une carte, tu vois.
C'est vrai que ça me correspond très bien.
Ça va être calme. Et ça va être une, à la fois calme et serein. C'est ce qui va, une sorte d'incubation. Donc ça, c'est une prévision pour les 3 mois qui suivent. Donc,
d'accord.
Normalement, tu m'en diras des nouvelles.
Ouais. Bien sûr. Je vais m'acheter une petite lanterne et.
Mais c'est une jolie carte. C'est une carte de sagesse et de recueillement, de repos aussi.
Oui. Non, bah, parfait. Ça me va.
Bon, bah merci beaucoup, Jessica.
Merci beaucoup.
Pour cette bonne compagnie.
Merci, Lamia.
Et bah, à tout à l'heure pour le vernissage.
Oui, à tout à l'heure.
Salut tout le monde.